Bon matin tout le monde, est-ce que ça va bien? Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Je suis tellement heureux d'être avec vous ce matin, tellement honoré. J'ai vraiment une affection pour l'église de Drummondville, parce que généralement je viens ici, je ne sais pas si vous m'avez reconnu, mais je chante à la guitare, je loue Dieu avec ma femme, et je sais qu'à Drummondville, il ne faut pas le dire aux autres sites, mais vous êtes les meilleurs pour chanter, c'est la plus belle chorale du Québec, et je peux vous remercier et applaudir. Yes, comme Will l'a dit, je m'appelle Anthony et je suis pasteur des ados à l'église Nouvelle-Vie Longueuil depuis maintenant 2 ans. Je viens de France, okay, je viens de l'île de La Réunion, mais j'ai aussi grandi, une partie de ma vie j'étais en France et c'est là où j'ai rencontré ma femme Johanna et on s'est mariés et on a une petite fille qui s'appelle Lily Rose. Elle est ce matin aussi avec moi, elle est avec l'éducation chrétienne et j'aimerais réellement qu'on puisse remercier et applaudir toute l'équipe de NV Junior. Pour vraiment remercier-les pour tout ce qu'ils font. C'est beau à chaque dimanche, quand on est parents, on sait que nos enfants sont entre de bonnes mains et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc voilà, Anthony, je me présente, je me suis présenté et ce matin, on continue et je suis tellement heureux de continuer la série Découvrir Jésus. Découvrir Jésus qui se porte sur l'évangile de Jean. Je sais que vous étiez bénis toutes les semaines précédentes par les différents messages qu'il y a eu. Et j'aime cette thématique parce que j'aime Jésus. Je suis quelqu'un de passionné par Jésus et je sais qu'un grand nombre ici d'entre vous, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous aussi, vous avez une passion pour Jésus. Et durant cette thématique, on va découvrir la divinité de Jésus, son humanité, sa passion pour nous, sa compassion, surtout et surtout son amour, l'amour qu'il a pour nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur la deuxième partie du livre de Jean. Parce que les spécialistes ont découpé le livre de Jean en 2 parties. Il y a une première partie qui est du chapitre 1 au chapitre 12. Et on l'appelle généralement le livre des signes. Et je vous encourage à lire le livre de Jean, c'est vraiment l'un des livres qui parle, je suis vraiment passionné par ce livre, mais il parle vraiment du côté humain et divin de Dieu. Il présente une présentation profonde de qui est Jésus. Et dans cette première partie, du chapitre 1 au chapitre 12, ça s'appelle le livre des signes parce qu'il s'attarde sur le ministère public de Jésus. Il s'attarde sur une série de signes et de miracles que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli, parce que Jésus cherche des hommes et des femmes qui vont croire en lui. L'importance du croire, avoir la foi en Jésus. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie sur laquelle on va s'attarder ce matin, c'est à partir du chapitre 13 et jusqu'à la fin, et cette seconde moitié est centrée sur l'heure où Jésus va mourir à la croix, ou la préparation de Jésus qui va faire ses adieux à ses disciples pour aller rejoindre son Père. Et cette seconde partie, elle est surtout marquée par la mort de Jésus. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour Jean, la mort de Jésus, ce n'est pas une tragédie. Au contraire, c'est vraiment le point le plus haut, le plus élevé de la gloire de Jésus. Et c'est pour ça qu'on appelle ce livre-là le livre de la gloire, parce que sur la croix, Jésus a révélé toute sa gloire. L'œuvre la plus magnifique, la plus puissante que Dieu a fait sur cette terre, c'est sa mort sur la croix pour nous réconcilier à jamais avec le Père. Et moi, lorsque je dis ça, j'ai envie de dire amen. Amen. Et ce matin, avant d'aller plus loin, avant qu'on puisse lire, j'aimerais vous poser une question. Si vous saviez qu'aujourd'hui ou que demain, vous allez mourir, que là, c'est votre dernière journée, qu'est-ce que vous feriez? Grosse question, hein? L'ultime question. Et j'ai regardé à différents sondages. J'ai pas trouvé des réponses québécoises, mais je pense que si c'était un Québécois, il aurait écrit « Je mangerai une bonne poutine, ok, c'est moi dernière. » Mais souvent, il y a la nourriture qui revenait. Il y en a souvent, ils disaient, ben moi, je veux manger, bien manger et manger le plat préféré. D'autres disaient que je vais aller dans un restaurant, dépenser tout mon argent en nourriture et partir sans payer. Donc, il y en a, ils sont un peu malins. Ils disent, non, moi, tu sais, je vis ma vie comme c'était le dernier. Donc, je profite à chaque jour. Chaque jour, c'est comme le dernier. D'autres disent aussi que je vais dépenser tout mon argent. Je n'aurai aucun compte à rendre à mes banquiers. Toutes mes cartes de crédit, là, clac, clac, Costco, pas de souci. Tout ça, on dépense. Il y en a d'autres aussi, c'était, je vais aller visiter le pays de mes rêves avec ma famille et passer du bon temps. Mais ce qui m'a surpris quand j'ai regardé ça, c'était que, à chaque fois, les gens, quand ils donnaient des réponses, qu'est-ce que vous allez faire le dernier jour, si c'était le dernier jour de votre vie, c'était, et c'est logique, c'était, ils pensaient à leur bien-être, à leur vie, à profiter des derniers instants présents et à avoir du fun et faire quelque chose qu'ils aiment par-dessus tout. Et donc, moi, je pense personnellement que je mangerai un bon plat créole, ok ? J'appellerai mon père, il viendrait de l'île de la France, il viendrait ici pour me cuisiner un bon plat. Mais à chaque fois, les gens parlent de leur vie, de leur bien-être. Mais le texte qu'on va lire ce matin nous dit ce que Jésus a fait alors qu'il savait qu'il allait mourir. Et vous savez ce qu'il a fait, Jésus ? Il s'est mis au service des autres. L'une des dernières choses qu'il a fait, Jésus, avant de mourir, c'est de laver les pieds de ses disciples. C'est de laver les pieds de ses disciples. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur ce chapitre 13, parce que souvent lorsqu'on lit, je pense que plusieurs d'entre vous, vous connaissez ce chapitre, souvent lorsqu'on lit le chapitre 13, la première application directe qu'on a, c'est il faut servir les autres, comme Jésus l'a fait, ok ? Mais lorsqu'on plonge nos regards dans ce texte et qu'on regarde à ce texte, on apprend tellement de choses sur Dieu. Et pour moi, c'est l'un des chapitres qui parle le mieux, qui parle le plus et qui montre comment Jésus nous aime. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir cela de la façon dont l'apôtre Jean écrit de manière magistrale comment Jésus a aimé ses disciples et comment aujourd'hui il nous aime. Et ce matin, le message va porter sur l'amour de Jésus, comment il démontre son amour, comment il déverse son amour et comment il nous donne un exemple de son amour. Et le titre de mon message ce matin s'appelle « Comment aimer comme Jésus ». Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Yes ! Alors on va lire ensemble ce matin, on a un peu de lecture, ok ? On va lire 17 versets ensemble, mais je prends le droit, je suis à l'église, alors je pense qu'on a le droit à l'église de lire notre Bible, ok ? Donc on va lire ensemble Jean 13, à partir du verset 1. « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin et qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas !» Jésus lui répondit, « Si je ne lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Et là, Pierre, « Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il a ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » Gros texte. Merci pour votre attention. Et ce qui est frappant dans ce texte, c'est que lorsqu'on regarde aux autres évangiles, les évangiles synoptiques, lorsqu'on regarde à Luc, on sait qu'à ce moment-là où Jésus, le Fils de Dieu, le plus haut, l'agneau, celui qui est complètement divin, complètement humain, c'est celui qui a le pouvoir de gagner sur la mort, le Fils de Dieu, il s'humilie pour laver les pieds de ses disciples. Et on sait qu'à ce moment même, cette scène se prend place au moment où les disciples ont une chicane entre eux. Les disciples, ils ont une chicane, et la chicane qu'ils ont, c'est qui va être le plus grand ? C'est qui le plus grand ? C'est qui le plus grand parmi nous ? Alors que Jésus s'humilie, eux, leur seul truc qui importait pour eux, c'était « Est-ce que c'est moi le plus grand ?» Imaginez-vous la situation, ok ? J'imagine très bien Jean, vous connaissez Jean tout le temps là, c'est moi le préféré, c'est moi qui vais être le plus grand. Là, t'as Pierre, il dit non, c'est moi le préféré, j'ai marché sur l'eau comme ça, et là tout le monde dit ouais, t'as coulé aussi, tu sais, à un moment donné. Et là, il y a Barthélemy, il est là, il dit, non, c'est moi le disciple préféré, tout ça. Et là, tout le monde dit, Barthélemy, c'est qui Barthélemy, tu sais? Et Thomas, Barthélemy, c'était un disciple de Jésus. Bon, on n'en parle pas souvent, mais je vais en parler parce que je m'appelle aussi Barthélemy, ok? Et aussi, il y a Thomas qui dit, non, c'est moi le disciple préféré. Là, il dit, non, on va voir parce que toi, avec tes doutes, non. Et là, Jésus, eux, ils sont tellement préoccupés par un titre de grandeur. Et Jésus, lui, il va s'occuper de la tâche la plus ingrate de la soirée. Il va faire la tâche la plus insignifiante, la moins considérée. Il va laver les pieds des autres disciples. Et laissez-moi vous donner un peu de contexte. C'est quoi lavage des pieds ? Lavage des pieds à l'époque, c'est parce qu'on marchait pas avec des... On n'avait pas tous des chaussures fermées, on était souvent en sandales, ok ? Et on marchait sur des routes qui étaient poussiéreuses, ok ? C'était pas des routes avec comme aujourd'hui où il y a de l'asphalte et tout ça. Je pense qu'à l'époque, je ne sais pas s'il y avait autant de trous dans la route qu'au Québec, mais ils marchaient en sandales toute la journée et il y avait de la poussière. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus de moteur, il n'y avait pas de voiture. Donc, les moteurs, c'était des ânes ou des chevaux ou du bétail. Donc, forcément, les routes, elles n'étaient pas si propres que l'on pense, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils avaient les pieds sales et la coutume, c'était qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait pour venir manger, pour venir s'attabler, il y avait un esclave qui se chargeait de laver les pieds de ses disciples, des invités, des convives. Mais ce soir-là, personne ne l'a fait. Et souvent, quand on mangeait, on était assis autour d'une petite table, okay, on n'était tous pas assis sur une chaise, on était tous accroupis. Je ne veux pas faire de dessin, mais généralement, le pied de ton voisin était assez proche de toi. Donc, c'était quand même une... Je peux comprendre pourquoi on lavait les pieds, ok? Mais bon. Mais c'était une tâche réservée aux esclaves, mais même pas aux esclaves juifs. C'était vraiment pour les plus bas, des plus bas, des plus bas de la société. C'était vraiment genre... Personne n'a voulu faire cela. Et je pense qu'au moment où Jésus a lavé les pieds de ses disciples, eux, à aucun moment de la soirée, parce qu'ils étaient en train de se chicaner, rappelez-vous, ils étaient en train de dire qui est le plus grand, qui est le plus grand. À aucun moment de la soirée, ça a traversé l'esprit de dire, on a nos pieds sales, si je vais laver ce pied, si je vais laver les pieds de mes frères et sœurs. Non, parce que eux, dans leur culture, ça n'existait pas, c'est impossible. Moi, juif, je vais laver les pieds de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas une tâche qui m'est réservée. Alors qu'ils se pensent trop haut, les disciples, trop importants, c'est à ce moment même que Jésus, lui, décide de s'humilier et de laver les pieds de ses disciples. C'est à ce moment même qu'il est là en train de les surprendre. Il est en train de les surprendre, de leur dire, vous ne voulez pas le faire. Moi, ce que je vois avec mes yeux, avec mon cœur, c'est que je vois des pieds sales. Je vais les laver. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai eue avec mon père il y a quelques... Les années de cela, alors que je venais d'acheter une maison en France, je travaillais beaucoup en déplacement, j'étais jamais chez moi et je rentrais que le week-end. Et j'avais une maison avec un grand jardin et j'avais jamais le temps de m'en occuper. Okay, c'était vraiment tout le temps plein de mauvaises herbes, surtout la cour extérieure, celle de derrière, la cour de derrière là, c'était rempli de mauvaises herbes. Je posais même pas les yeux dessus tellement j'avais honte. Et en fait, et je disais à ma femme, Joanna, s'il te plaît, enfin, ma femme s'appelle Joanna, je disais Joanna, viens, on va employer quelqu'un pour le faire et tout ça. Ma femme, elle me dit, non, c'est non, Tony, on ne peut pas se permettre. J'étais là, mais j'essayais de la convaincre. Je ne voulais pas le faire. Et moi, je dis, qui moi? Je travaille tout le temps. Je suis Anthony quand même, tu sais, je travaille. Donc, j'ai de quoi payer quelqu'un. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas m'en occuper. Et j'essayais de me convaincre, ok? En vrai, j'aurais pu quand même le faire, mais je n'avais pas envie de le faire. Et ce n'est pas que je n'avais pas envie de le faire, mais c'est parce que je me trouvais des excuses. Okay, ça a changé. Dieu change les vies. Et à ce moment-là, mon père était en vacances à la maison. Il était chez nous. Et mon père, il est resté quelques jours. Et un soir, je suis parti travailler. Et en rentrant de chez moi, déjà, j'ai vu qu'il y avait un bon barbecue qui m'attendait. Je voyais le feu, je chantais la viande. Vous savez, souvent, notre père, c'est le roi du barbecue. Okay, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, il dit « Mon père, c'est le roi du barbecue. » Tout le monde, nos pères, c'est les rois du barbecue. Arrêtez-vous là, c'est mon père, le roi du barbecue. Et là, je rentre dans mon jardin, j'ouvre mon portail, et là, je vois que mon jardin, il est tout propre, tout clean, nickel. Aucune petite herbe, tout parfait. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais derrière, là où tout le monde était en train de manger et m'attendre, et là, je vois que mon père, il a tout nettoyé, tout fait. Et là, je le regarde, il me dit, ça va bien, mon fils? Je fais, ouais, ça va. Il m'a dit, t'as passé une belle journée? Ouais. Et là, je savais que c'était lui. Et là, j'ai simplement dit, merci, papa. Mais ce que mon père a fait, c'est qu'il s'est occupé du jardin. Et à aucun moment, il m'a dit, hey, je le fais parce que toi, tu n'es pas capable de le faire. Et je le fais pour te montrer que moi, je suis capable de le faire pour me juger, pour me condamner. Non, non, il a simplement fait parce qu'il aimait. Et Jésus, quand il fait les disciples et qu'il lave les pieds à ses disciples, il ne veut pas leur dire, hey, je vous condamne, vous êtes en train de vous chicaner, vous êtes en train de vous obstiner entre vous et tout ça. Et regardez, moi, je suis capable de le faire. Non, non, Jésus, il est en train de dire, je veux vous démontrer que je vous aime. Jésus démontre son amour. Et je suis certain que ce matin, pleine foi, ici dans ce lieu, vous êtes plusieurs à pouvoir témoigner qu'il y a des moments où vous étiez loin de Dieu, où vous vous êtes dit qu'il y avait le doute, où vous avez l'impression que vous voulez tout abandonner, ou qu'il y avait des choses à faire, que vous n'avez pas envie de le faire, que vous fermez les yeux dessus. Jésus, lui, l'a fait parce qu'il vous aime. Jésus démontre son amour. Amen. Mais là, imaginez-vous la tête des disciples. J'essaie de trouver un référentiel. C'est comme si la reine d'Angleterre venait laver leurs pieds. T'sais. Mais là, ce n'est même pas la reine d'Angleterre, c'était le roi des rois qui lavait leurs pieds. Et là, je les vois tous en train de faire. Non, non, impossible, tu ne peux pas faire ça. Mais Jésus, il choque par son amour. Jésus, son amour ne respecte pas les liens sociaux et culturels de l'époque. Il choque parce que l'amour de Jésus pour ses disciples est un amour inconditionnel qui n'est pas compréhensible humainement, mais il est divin, son amour est profondément parfait. Amen. Et Jésus, s'il y a bien un endroit où il a démontré son amour sans nous condamner, sans nous juger, sans nous critiquer, c'est à la croix. Jésus, il n'a pas non seulement démontré son amour, mais il a déversé son amour sur nos vies. Il a déversé son amour sur nos vies. Et si lavement des pieds est choquant, croyez-moi que c'est beaucoup plus choquant tout ce qui a pris place sur la croix. Mais là encore, c'était motivé par l'amour de Jésus. C'est ce que nous allons voir là, dans les prochains points que j'ai envie de vous dire. C'est que là, on a vu que Jésus démontre son amour, mais Jésus a déversé son amour. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus veut encore et peut encore déverser son amour pour toi aujourd'hui. Amen. À partir du chapitre, du verset 6, on lit encore, « Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, Simon-Pierre, et là, il dit, « Lave-moi les pieds, la main, la tête. » Celui qui s'est baigné est entièrement pur, Jésus dit. Il suffit de se laver les pieds, or vous êtes pur. Ah, la réaction de Simon-Pierre, on aime trop Pierre, avec ses réactions à chaque fois. À chaque fois, il est là à faire des réactions. Et là, il dit, toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Je suis sûr que personne ici dans ce lieu a dit, quoi, toi, Seigneur, tu veux t'occuper de ma situation? Combien de fois on a réagi comme ça? Combien de fois où Dieu veut intervenir dans notre vie, mais nous, on est là à dire, non, toi, Seigneur, ça, c'est mes problèmes. C'est mes pieds, c'est à moi, ça m'appartient. Mais là, Jésus dit, si tu réagis, c'est ce que révèle ce texte, si tu réagis de la sorte, tu fermes des portes à des bénédictions. Tu es perdant, ok? Combien de fois on a pu réagir comme ça, alors que Jésus veut, lui, au contraire, il voit nos pieds sales, il veut prendre ce qu'il y a plus sale chez nous, le laver, le transformer. Il voit qu'on galère dans une situation, il voit qu'on a besoin de son aide, il veut agir. Mais parfois, on est tellement orgueilleux, on dit, non, non, Seigneur, ça c'est à moi, ça c'est à moi. On est toujours perdant quand on réagit comme cela. Et ici, dans le texte, la réponse de Jésus est vraiment intense. Pour Pierre, là, c'était « wow, ok ». Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Imaginez-vous, Pierre, il a passé plusieurs années à côté de Jésus. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Il sait que Jésus est la promesse. C'est ce Jésus qui est le sauveur du monde. Il sait toutes ces choses. Et Jésus lui dit hey, « si moi je ne peux pas m'occuper de toi, alors il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Et là, Pierre, « Oh, mais lave-moi tout, Seigneur, lave-moi tout !» À chaque fois, tu sais, souvent, on a essayé de trouver des réponses, des symboles, dans le sens, pourquoi la tête, pourquoi les mains. Mais en fait, tous les commentateurs sont assez d'accord pour dire que c'est juste que Pierre, il a une réaction démesurée. Tu sais, « Non, non, Seigneur, moi, je veux être avec toi, je veux être avec toi, s'il te plaît, lave-moi tout !» Et ici, Jésus, et Pierre, ce qu'il fait, ça me fait penser un peu à ma petite, tu sais. Quand je dis « Lily Rose, va à la douche, s'il te plaît !» Elle me dit « Non, Seigneur. » Non, mais elle ne m'appelle pas Seigneur. Elle me dit « Non, papa, je ne vais pas aller à la douche. » Et là, je lui dis « Lily Rose, si tu ne vas pas à la douche, tu ne pourras pas faire la soirée cinéma avec papa et maman. On a prévu de manger des pop-corn et de regarder un film. » Et là, elle est là, comme Pierre. « Ok, c'est où la douche? Je me lave. Est-ce qu'il faut que je prenne un bain? Est-ce que je peux me laver les cheveux ?» Pierre réagit, c'est normal. Mais Mais là, en fait, ce que Jésus est en train de faire, il dit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Jésus veut symboliser, et ce texte pointe le doigt sur la croix. Ici, Jésus lave les pieds, il annonce ce qui va prendre place à la croix. Jésus veut prendre de ce qui est plus sale chez nous, nos secrets, les fautes qu'on a pu commettre, le poids de nos culpabilités, les erreurs qu'on a pu faire. Il veut prendre et il veut les laver. Et la seule chose, c'est que nous avons besoin de Jésus. Aucun homme ne peut par lui-même accéder à l'éternité. Aucun homme ne peut par lui-même avoir la vie éternelle et être un enfant de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est disponible encore aujourd'hui et que Jésus est la seule entrée dans la vie chrétienne. Mais c'est Dieu qui, par sa grâce, nous donne son Fils. On a besoin de Jésus. Amen. Vous le savez tous, la seule valeur, la seule chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu pour nous, pour qu'on soit sauvé, c'est ce qui a pris place à la croix de Jésus-Christ. Si tu te poses, quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Regardez simplement la croix. C'est ça, Jésus a donné sa vie pour vous. Mais, et là, lorsqu'on va un peu plus loin dans le texte, il dit, celui qui s'est baigné et entièrement pur, il le suffit de se laver les pieds. C'est genre, je peux imaginer la tête de Pierre, hein? C'est souvent Jésus, ces réponses-là, ça demande beaucoup de réflexion. Attends, si je prends ça au sens littéral, c'est-à-dire, ok, alors je suis chrétien, j'ai juste à me laver les pieds. Non, Jésus, là, il est juste en train de parler de ce que c'est la justification. Gros terme théologique. Qu'est-ce que c'est la justification? Le pain, c'est baigner, se baigner entièrement, c'est notre purification à la croix. C'est quoi la justification? C'est que nous étions séparés de Dieu, mais parce que Jésus, par son sang qui a coulé sur la croix, qui a lavé nos fautes, nous sommes réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, celui qui est baigné là, celui qui s'est baigné une seule fois, il n'a pas besoin d'être encore lavé parce que mon sang le lave. Lorsque Dieu voit le péché, peut-être le péché, c'est peut-être pas trop populaire au Québec d'utiliser ce mot, mais les fautes qu'on a pu se commettre, le péché, c'est manquer la cible. Les choses qui nous condamnent à ne pas vivre dans l'éternité, lorsque Jésus nous regarde comme ça, lorsque Dieu nous regarde et ces choses-là peuvent nous priver de l'éternité, Dieu y voit le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous a lavés, le sang de Jésus qui nous a purifiés. Dieu ne voit pas nos fautes, mais il voit le sang de Jésus à la croix. On est justifié. Dites-le ce matin, je suis justifié, je suis proche de Dieu, je sais que je n'ai plus rien à craindre. Mais Jésus part plus loin et dit, mais il suffit de se laver les pieds. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire encore? Il parle de sanctification. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, Anthony? C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est que Dieu nous aime, ok? Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Dieu veut produire du changement dans ta vie. Et on est tous appelés à être parfaits. Dieu veut, la Bible parle de perfection, on est tous appelés à être parfaits, mais ça ne va pas être possible avant la venue de Dieu, ok? Mais moi, j'aime bien dire cela, ok? Un jour, je vais être parfait. Ça me fait tellement du bien. Et je pense que ça fait vraiment du bien aussi à ma femme de savoir que son mari va un jour d'être parfait. Je pense que c'est le carburant de sa foi. Mais on est appelé parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un statu quo. Okay, c'est pas, ça ne parle pas tellement. On court vers la perfection, mais parce qu'on doit progresser. C'est plus une vie de progression. Jésus ne veut pas nous laisser. Il nous aime trop. Il veut produire du changement en nous. Et c'est pour ça que nous devons nous sanctifier. Car nous savons que pour être chrétien, là, ce n'est pas une question de perfection, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de discerner et de voir qu'il est imparfait et qu'il a besoin de mettre sa foi dans celui qui est parfait, celui qui a vécu une vie parfaite et que c'est le seul moyen qui fait que je peux être sauvé. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'imparfait, c'est il reconnaît ses imperfections et j'ai besoin de Jésus qui est parfait. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Paul nous enseigne que la sanctification, l'atteinte de la perfection, et c'est ce que Jésus nous incite à atteindre, mais elle ne sera jamais achevée dans cette vie. C'est facile à dire, ok? Ok, je suis justifié, c'est-à-dire que plus mes fautes ne me condamnent plus, je peux vivre éternellement avec Dieu, et dans la vie de tous les jours, je dois me sanctifier et je cours vers ma perfection, tu sais. Mais ça, c'est hyper simple de le dire. Mais combien de fois ça nous est arrivé de retomber, de chuter, de se sentir tellement loin de Dieu, de se sentir tellement imparfait, tellement loin, tellement découragé, sous la culpabilité. Et là, de se dire, ok, mais là, je dois vraiment croire que malgré tout ça, malgré tout ce que je fais actuellement, j'ai déjà accepté Jésus dans ma vie, mais malgré tout ce que je fais actuellement, Dieu m'aime toujours. C'était l'un de mes plus gros combats quand j'étais adolescent. Vous connaissez le fruit, l'avocat ? Je suis de l'île de La Réunion, on mange beaucoup d'avocats, et l'avocat, souvent d'extérieur, ça paraît, il est super beau. Mais je me rappelle encore ma mère, quand elle ouvrait l'avocat, parfois à l'intérieur, c'était tout noir, si pourri, on ne pouvait pas le consommer. Et moi, j'étais un avocat, pas un avocat pour la cour, okay, mais quand j'étais adolescent, j'étais comme un avocat, je soignais mon apparence. Okay, à l'église, on me voyait, je souriais, Anthony, toujours là, tout le temps en train de servir et tout ça. Mais à l'intérieur, j'avais des péchés. J'avais des péchés et j'avais le poids de la culpabilité. Parfois, je retombais dans mes struggles. Et en fait, ça me mettait un poids de culpabilité énorme. Mais je disais, personne ne le voit, et j'étais convaincu que Dieu n'allait pas le voir. Promis, j'étais là, non, quand je vais prier, je vais dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es fort, je t'aime. Je ne parlais jamais de moi, parce que je savais très bien que si j'allais parler de moi, Dieu allait savoir ce qui se passe dans mon cœur. Et moi, je dis, non, j'ai trop de respect, c'est un mort pour moi à la croix, c'est trop beau, c'est trop grand. Non, je veux pas que Dieu voie ça en moi. Je veux pas, j'ai pas envie que Dieu voie ça en moi. Mais Jésus, il sait toutes choses. Il connaît le plus profond de nos pensées, le plus profond de nos cœurs. Il sait ce qui passe. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Et il y a un texte qui m'a libéré, et je vais le lire. C'est un peu long, mais ce n'est pas grave. On est ensemble. 1 Jean, à partir du chapitre 1, au verset 7, jusqu'à 1 Jean 2, jusqu'au verset 2. Je vais le lire. « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tous nos péchés. » Là, c'est notre justification. Si nous prétendons d'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Comme je disais tout à l'heure, un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Un chrétien n'est pas appelé, on doit être libéré, on est libéré du péché. Mais ce verset a changé ma vie. Si toutefois il est arrivé à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais c'est du monde entier. Jésus a déversé son sang par sa mort sur la croix, a déversé son amour par le sang coulé sur la croix. Il a déversé son sang pour son amour pour notre justification. Mais Jésus continue de déverser son amour. Il est présent avec nous parce que lui seul peut nous aider à nous défaire de nos péchés. Et Jésus, il n'est pas en train de dire, dites-vous bien une chose, lorsque vous avez des péchés, oui, il y a un poids de culpabilité. Mais on peut prier et demander à Dieu pardon pour cela. Et ce matin, je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas quelle pensée tu peux avoir. Peut-être que tu te sens trop loin, abandonné, ou peut-être que tu dis, non, j'ai commis trop de péchés, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. Dis-toi bien une chose, lorsque tu viens vers Jésus, encore une fois, ce n'est pas écrit, il condamne, il te juge, il dit que tu es un moins que rien. Non, non, encore là, il déverse son amour, et il dit, je plaide auprès du Père parce que mon sang coulé sur la croix, non seulement il lave tes péchés, il purifie tes péchés le jour où tu donnes ta vie à Jésus, mais tout au long de ta vie chrétienne, ce sang continue à couler, à déverser parce que Jésus déverse son amour. Amen. Enlève le poids de la culpabilité. Enlève cela ce matin. Enlève le poids du péché, ce poids qui t'empêche d'avancer dans ta vie chrétienne, ce poids qui te tient beaucoup trop loin. Mais rapproche-toi de Jésus. Jésus prend un plaisir. Quand il nous voit, quand il parle de se laver les pieds, il parle de dire nos offenses. Quand il nous voit dire nos offenses et dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici, je ne me sens pas bien, voici ce qui s'est arrivé, voici quelle situation, je n'ai pas pu garder ma langue. Oh Seigneur, j'ai manqué de respect, Seigneur, je me suis trop emporté. Jésus, il est là, ok. Je veux peu te changer et je vais t'aider, je vais être avec toi et ça va aller. Amen. Il veut qu'on se réalise chaque jour que son amour, qu'on réalise chaque jour que son amour pour nous, pour que nous puissions à notre tour aimer en retour. Jésus démontre son amour, il déverse son amour à chaque jour. Jésus, il est là, présent, proche de moi. Mais Jésus, dans ce texte, va donner l'exemple de son amour. Voilà comment tu dois manifester ton amour. Lisons ensemble. Jean 13, toujours 13 à 15. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Jésus, là, il a démontré à ses disciples qu'il les aimait, et il a symbolisé aussi sa croix, il montre qu'il déverse son amour, mais on croit que cet amour transforme nos vies, on croit que cet amour change nos vies. Et Jésus dit, mais regardez maintenant, prenez ce que j'ai fait en exemple. Il va revenir sur l'acte. Là, il va revenir sur l'acte qu'il a fait, cet acte d'amour. Il dit, hey, regardez là, moi Dieu, moi Jésus, moi le Fils de Dieu, je me suis humilié pour vous et je me suis abaissé, j'ai pris de l'eau, j'ai essuyé vos pieds et je les ai lavés. Tout ça parce que je vous aime. Vous devez faire exactement la même chose. Parce que Jésus, lui, ce qui importe pour lui, là, c'est pas son stade, son statut. C'est pas « je suis Jésus », ok ? C'est pas à moi de m'occuper de ça. Au contraire, Jésus, lui, il voit des pieds sales, il voit un besoin, il a les yeux ouverts, il a les oreilles pour entendre, et il va laver, il va servir ses disciples. Et nous, nous devons faire exactement la même chose. Le lavement des pieds de la croix nous témoigne de l'amour impressionnant de Jésus, alors nous devons en retour être caractérisés par le même amour, être autant passionnés par le même amour, avoir le même amour pour servir les autres, avoir le même amour et le même dévouement dans le service des autres. Parce qu'un serviteur de Dieu est un disciple qui est rempli de reconnaissance. Laissez-moi vous expliquer pourquoi on fait l'église, pourquoi il y a toutes ces personnes-là, pourquoi on sert, pourquoi on a envie de servir. C'est parce qu'on ne méritait rien. On ne méritait rien. Mais Jésus, lui, s'est donné entièrement pour nous, gratuitement, il a tout donné. Et donc, un disciple de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît l'amour de Jésus déversé pour nous. Vous savez, il y a 3 ans de cela, quand je suis arrivé au Québec, j'étais en mission avec Action Nouvelle Vie, dans des communautés autochtones. Et j'étais avec Sonia Masso. Est-ce que vous connaissez Sonia Masso? C'est celle qui est responsable des missions, qui est notre pasteur à l'Église Nouvelle Vie, qui s'occupe principalement de ça. Elle part toujours en mission. Et elle a un titre de responsabilité. Elle doit débloquer des budgets. Elle a souvent des gros meetings et tout ça pour justement avoir des ressources. Elle a quand même un poste de responsabilité. Mais lorsque je suis en mission avec Sonia, j'ai été frappé par sa façon de servir. Si j'avais une GoPro, j'aurais aimé la suivre comme ça et montrer ce que c'est un vrai serviteur. Vous savez pourquoi? Parce que Sonia, elle n'a pas dit « je suis la directrice, c'est pas à moi de faire les autres choses ». Non, non, s'il y avait une palette à bouger, elle bougeait la palette. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, elle aidait la personne. S'il fallait juste donner à manger, elle donnait à manger. Quand il fallait parler à une personne qui était dans la tristesse, c'était la première à venir avoir ce cœur de berger. Parce que Sonia, ce qui importait pour elle, ce n'est pas son titre. Ce n'est pas ça qui importait pour elle. Ce qui importait pour elle, c'est ce qu'elle était. Ce n'est pas ses actions, c'est pas être serviteur de Dieu, ce n'est pas à propos des actions qu'on va faire. C'est une attitude de reconnaissance, une attitude de dire « Hey, je suis un enfant de Dieu, je suis aimé, je ne mérite rien et je veux servir en retour. » Et j'ai été frappé par cela. Encore, il y a une autre personne avec laquelle j'ai envie de parler, c'est Adassa, c'est une jeune fille, c'est celle qui est au milieu de la photo. Adassa, c'est une jeune fille qui est leader avec nous aux ados. Et Adassa, elle est encore toute jeune, je ne pense même pas qu'elle a 20 ans. Et ce qui est frappant lorsqu'on la voit servir, c'est qu'elle a toujours le sourire, mais elle est passionnée. Et elle, je vous promets, tu peux lui dire, ce soir tu seras la superviseure de la soirée, ok. Ce soir tu vas accueillir des gens, ok. Ce soir tu vas être placeur, ok. Ce soir tu vas t'occuper de la caisse, ok. Parce que Adassa, ce qui importe pour elle, ce n'est pas son titre, ce n'est pas ce qu'elle va faire. Ce qui importe pour elle, c'est ce qu'elle est. Je suis une servante de Dieu. Le service, ce n'est pas une question de qu'est-ce que je vais faire, mais c'est plutôt une question qui je suis. Qui je suis? Je suis un enfant de Dieu qui ne méritait rien et en retour, motivé par l'amour que Jésus m'a donné, je veux aimer les autres qui sont autour de moi. J'aimerais entendre un amen à cela. Le service avec le cœur à la bonne place, ce n'est pas défini par ce que je fais, mais ce que je suis, aimé, pardonné, racheté. Okay? Service, c'est pas je prends mon iPhone, je viens d'aider quelqu'un et je fais hop, une photo, je mets sur les réseaux sociaux et je dis regardez comment je sers. Non, non, c'est pas ça le service. Le service, c'est être attentif, avoir les mêmes yeux que Jésus, avoir les mêmes oreilles de Jésus et avoir conscience de l'amour qu'il a pour nous et servir. Sans entendre quoi, ça a peu d'importance qu'est-ce que je fais. C'est ce que je suis. Ça a peu d'importance. Voilà une façon de comment aimer comme Jésus. Je suis aimé, je réalise son amour pour ma vie, alors je veux aimer comme lui en retour. Amen. Amen. Et souvent Jésus dit, il me fait rire Jésus, et il dit, faites comme moi, prenez mon exemple. Mais en vrai, Jésus, lui, c'était Dieu. Il était profondément divin. Et il s'est abaissé, il s'est tellement humilié pour s'occuper d'hommes, des hommes comme nous. Nous, on n'est pas divins, ok? Ce que Jésus nous demande, ce n'est pas autant d'humiliation que lui, il a suivi. Nous, nous sommes des humains qui aiment d'autres humains. Je ne sais pas si vous comprenez, mais l'humiliation que Jésus a vécue est beaucoup moins, est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que nous, l'humiliation qu'on doit faire. On doit juste aimer les gens. Aimer les gens en retour. Amen. Jésus, ce matin, nous a démontré son amour. Et je vais appeler les musiciens. Jésus, ce matin, a déversé son amour. Et Jésus donne l'exemple de son amour. Lorsqu'on lit ces versets-là, lorsqu'on lit cette partie des Écritures, il y a plusieurs verbes, ok? Et ce que vous réalisez, c'est que chaque verbe, tous les verbes d'action, ok? Dans le Jean 13, tous les verbes d'action, c'est Jésus qui est en action. Jésus démontre, Jésus déverse, Jésus donne son exemple. Ce matin, j'aimerais te dire, rappelle-toi, c'est Jésus qui est toujours en action. On l'a chanté tout à l'heure, il agit. Même quand je ne le vois pas, il agit. Même quand je ne le comprends pas, il agit. C'est Jésus qui est constamment en train d'agir parce qu'il nous aime. Ce matin, arrête de penser que tu dois croire, que tu dois faire des choses, tu dois faire des choses pour être chrétien, non. Oui, tu dois faire des choses, mais pas pour être chrétien et pour être aimé de Dieu. Non, non. Je fais des choses, je sers les autres parce que je suis aimé de Dieu. Je ne veux pas être aimé de Dieu. Je le suis déjà. Garde cette promesse dans ton cœur. Il y a quelques mois, je discutais avec quelques semaines, je discutais avec quelqu'un, un de nos leaders aux ados. Et ce gars-là, qui est un ami pour moi, ce gars-là, il a grandi dans une famille chrétienne et à l'âge de 12 ans, il était en rébellion complète. Complète contre la religion, complète contre la foi. Il a fait il est parti, ok. Il a tout l'extrême. Il voulait dire tout ce qu'on me disait à l'école du dimanche. Moi, je veux faire tout le contraire. Et alors, il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Et il a fait plusieurs trucs de criminalité dans le sens où il faisait des vols. Il y a eu des deals. Il était dealer de drogue, revendeur de drogue. Il était toxicomane. Il s'est éloigné de Dieu. Et pourtant, il est revenu à Dieu. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a le plus frappé pendant toute cette période où tu étais loin de Dieu, où tu voulais toi, par toi-même, parce que lui, il disait que moi, j'étais incapable, ok, Anthony, je ne pourrais jamais être parfait, j'étais incapable de pouvoir être parfait, donc du coup, je ne voulais rien savoir de la religion. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a touché le plus? Qu'est-ce qui t'a fait revenir à l'église? Il a dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais toujours cette impression que Jésus venait vers moi, que Jésus était là. À chaque fois, j'étais dans le métro ou j'étais assis sur un banc, j'entendais une discussion de Jésus, de Dieu. Une fois dans un parc, j'ai trouvé une Bible. Jésus est en action. Jésus vient nous chercher. Dans toutes les religions du monde, ok, les hommes doivent faire des choses pour atteindre Dieu. Le christianisme, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui s'est fait homme pour venir vers nous. Et ce matin, j'aimerais que tu te le rappelles de ce que Jésus a fait. Il est venu vers toi, il vient vers toi. Et ce matin, si ce matin tu entends pour la première fois ce message, Jésus vient vers toi. Jésus vient vers toi parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime, il vient vers nous. Et ce matin, on va prendre ce chant qui dit « Amour extravagant ». Aucune ombre n'est trop sombre. Aucun mensonge ne peut tenir. Rien ne peut me séparer de l'amour que Jésus a pour ma vie. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour. Et ce matin, je l'ai dit, peut-être que tu te sens comme j'ai commis trop de péchés, je suis beaucoup trop loin, tout ce que j'ai fait, c'est beaucoup trop grave pour que Jésus se révèle à moi. Non, non. Non, non, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien, rien n'est grave. En fait, justement, c'est parce que c'est grave que Jésus a dit que tu serais incapable par toi-même de te défaire de cette situation-là. C'est moi qui vais mourir à la croix pour toi. J'aimerais que vous puissiez baisser vos têtes ce matin et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et après, on va chanter. Et Seigneur. Et Seigneur, tu es puissant, Seigneur. Tu es grand Père. Merci parce que lorsque nous regardons, lorsque nous avons plongé nos yeux dans ce partage, Seigneur Jésus, dans cette portion de tes Écritures, Jésus-Christ, tu nous as montré ô combien tu nous aimes, ô combien tu es puissant, ô combien tu es grand, Jésus-Christ. Tu nous as montré encore une fois et rappelé ce matin que ton amour pour nous, Seigneur Jésus-Christ, n'a aucune limite. Que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, ne respecte peut-être pas parfois les cadres humains ou parfois surpasse nos entendements parce que ton amour est extravagant envers nous, Jésus-Christ. Tu viens vers nous, tu déverses ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Tu as déversé ton amour, mais tu continues à déverser ton amour, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants pour cela, Père. Ce matin, j'aimerais te prier, Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais prier pour mes frères et mes sœurs qui sont dans ce lieu, Seigneur. J'aimerais pour qu'ils puissent sortir de ce lieu et se rappeler de ô combien Jésus m'aime. Ô combien, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait de grandes choses dans leur vie. Ô combien tu as agi dans la vie, Seigneur Jésus-Christ. Ô combien tu leur as aimé, tu les as aimés de tout ton cœur, Seigneur. J'aimerais ce matin que s'il y a des personnes qui se sentent trop loin, Seigneur Jésus-Christ, sentent, Seigneur Jésus-Christ, que tu viens vers eux, Seigneur Jésus, que par tes bras d'amour, Seigneur Jésus, tu viens les entourer, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent ressentir ta présence, Seigneur. Qu'ils soient transformés, Seigneur, par cet amour, Jésus-Christ. Révèle-toi parmi nous, Seigneur Jésus, ce matin. Viens, Seigneur, viens toucher nos vies, Seigneur. Viens vers nous, Seigneur, renouvelle-toi à nous, Seigneur. Oh, alléluia. Puisse se lever à notre place et on va prendre ce pont ensemble qu'aucune autre. Ce matin, levez-vous à votre place et simplement chanter ce chant, dire Seigneur, tu m'aimes. Aucune ombre, aucun mensonge ne peut tenir, Seigneur Jésus. Toi, tu m'aimes, tu me démontres ton amour et tu déverses ton amour. Alléluia. Chantons ensemble comme une reconnaissance envers Dieu. Aucune ombre.